De cause à effet, le magazine de l'environnement.
Il y a des scènes de nature qui vous bouleversent, vous interpellent et vous questionnent sur la vie, comme celle de deux gnous, mâles, s'affrontant au risque de la mort pour une femelle. La vie, la nature, les espèces et notre planète sont depuis 3 milliards d'années l'essence même de notre existence. Et sur cette terre en mutation, dans ce monde en pleine transformation, des hommes et des femmes se penchent sur le berceau de la nature, du vivant et sur le devenir des humains. C'est le cas de nos deux invités face à la biodiversité soumise à mal souvent et puis devant cette nature qui n'hésite plus à se rappeler à nous. Bonsoir Hubert Reeves.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est en astrophysicien et en défenseur de la biodiversité et de la vie au sens large que vous avez écrit ce dernier livre, La fureur de vivre, un livre paru au Seuil. Et je précise que vous êtes aussi président d'honneur de l'association Humanité et Biodiversité. À vos côtés, Hélène Soubelet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur vétérinaire, directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et auteur de livres pour les jeunes et les moins jeunes. On peut citer « Sauvons la biodiversité », un livre écrit avec Jean-François Sylvain. Et puis, il y a aussi le livre « Je sauve les espèces menacées ». C'est deux livres édités chez Rustica. Comment habiter le monde en harmonie avec le vivant? C'est la question posée dans le cadre de notre partenariat hashtag Sauver le Présent. Un partenariat, je le rappelle, qui réunit France Culture, Le Parisien et la revue Ouzbek Erika. Bientôt rejoint par d'autres médias, notamment Science et Vie Junior. Une coalition qui vous offre un dossier complet sur le thème de la biodiversité à découvrir sur le site de notre émission. Et puis dans l'œil du monde planète, le journaliste du journal Le Monde, Stéphane Foucard, nous livrera son choix info de la semaine concernant la réglementation européenne sur les abeilles et les pesticides. Bienvenue à tous dans notre magazine de l'environnement sur France Culture, le magazine toujours préparé avec la fine équipe Anaïs Morales, avec nos complices Anne Gouzon, Valérie Ernoul, Caroline Chausset, Vanessa Chang. Émission réalisée par Yvon Croisier avec Alexandra Malka et avec à la technique aujourd'hui Manuel Couturier.
Un vison d'Europe en liberté dans un marais, l'image est sur le point de disparaître. Les derniers individus de l'espèce en France ont été recensés par les équipes de la LPO en Charente et en Charente-Maritime. Elles dressent un constat alarmant, la population de visons d'Europe diminue chaque année.
On a dénombré 17 individus différents. Ces informations viennent de plusieurs sources, donc soit des tunnels à empreintes, ou quand on capture des animaux dans des cages, qui sont ensuite après pucés, donc les mêmes puces que pour les chiens et les chats.
Pour tenter de sauver la biodiversité et ce petit mammifère carnivore, la communauté européenne a mis en place un fonds spécial, 4 millions d'euros pour ces mustélidés, de l'argent nécessaire pour entreprendre des travaux d'aménagement du bord des rivières. Si le vison d'Europe est un animal aquatique, il se déplace également sur la route et les collisions routières restent l'une des principales menaces.
Nous, on a mis en place ce qu'on appelle des encorbellements. Les encorbellements, là, ce sont les planches en bois que l'on voit contre les piles de pont et qui sont raccordées ici à la berge et qui permettent aux visons et à d'autres espèces telles que la loutre ou d'autres mustélidés de passer à pied sec sous le pont.
C'était un reportage diffusé sur France 3 le 11 septembre dernier, le vison d'Europe. Les derniers, donc, en France, se trouveraient en Charente et en Charente-Maritime. Le vison d'Europe, à l'image de l'ours brun et d'autres espèces, est en danger aujourd'hui en France. Donc la France, hein, touchée par cette perte de biodiversité, Hélène Soubelet.
Oui, tout à fait. La France, comme le monde d'ailleurs, parce qu'en fait, en 2019, un grand rapport scientifique a été produit par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité des services écosystémiques. Et c'est 150 chercheurs, plus de 15 000 publications scientifiques qui annoncent effectivement qu'il y a un effondrement massif des populations animales et végétales, de toute la biodiversité en fait. Et sur les 8 millions d'espèces connues, en fait, en gros, on dit qu'il y a 1 million qui seraient menacés d'extinction dans les prochaines décennies. Donc c'est très proche de nous et on peut constater quand même une accélération de ces extinctions, des disparitions de populations au niveau mondial. animal qui sont très très alarmantes.
Des alertes qui se multiplient, hein, puisque là on réagit bien sûr à ce dernier rapport Planète Vivante du WWF qui a rappelé la pression anthropique des hommes sur les écosystèmes, avec 2/3 de la faune sauvage disparue en 50 ans, et puis cette chute donc de 68% des populations d'animaux vertébrés. Hubert Reeves, ce monde a-t-il atteint ses dernières limites ?
Je crois que personne ne connaît l'avenir, personne ne connaît la puissance de la persistance de la vie. Il faut d'abord être content de ce que les actions se font aujourd'hui pour essayer de faire des choses, pas simplement de parler de biodiversité, mais de dire, il y a par exemple les castors dont on dit qu'ils sont revenus en Europe, je vous confirmerai si vous voulez, les baleines à bosse qui ont été retirées de la liste des animaux menacés. Je crois que c'est important de signaler les choses qui sont positives, bien sûr aussi les choses qui sont négatives, mais les choses qui se font et d'abord les choses qui marchent, pour que les gens n'aient pas l'impression que c'est un combat perdu. C'est un combat sérieux, bien sûr, il y a des risques sérieux, mais ça n'est pas un combat perdu. Et j'insiste beaucoup sur ce côté d'annoncer les choses positives et pas seulement les négatives. C'est important pour le moral des troupes, comme on dit.
Vous avez raison.
Que les gens n'aient pas l'impression que tout est perdu, et ce qui est généralement très négatif.
Hélène Soubelet, donc il y a des bonnes nouvelles alors?
Oui, oui, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui fonctionnent, hein, comme disait Monsieur Reeves. En fait, lorsqu'on s'intéresse à la protection soit des espèces, soit des espaces, on voit qu'on a des réintroductions qui fonctionnent, des espèces qui se réinstallent dans des milieux où on baisse un petit peu la pression des activités humaines. Donc oui, oui, il y a des actions possibles, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on reste optimiste, la communauté scientifique reste optimiste, tout en faisant état tout de même d'une dégradation qui, si on n'y prend pas garde, pourrait devenir irréversible en fait.
Donc encore faut-il, comme vous dites, rester vigilant et puis agir, c'est ne pas se satisfaire uniquement des bonnes nouvelles, mais faire en sorte de donner à comprendre que s'il y a bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a eu action. Hélène Soubelet, avec la pandémie de Covid-19, d'ailleurs pour la première fois, les humains ont dû s'extraire du monde extérieur pour se préserver. On a vu le vivant, le reste du vivant s'emparer de cet espace extérieur. Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une prise de conscience du vivant, de son respect nécessaire, justement de la main de l'homme, hein, des méfaits aussi des hommes sur les écosystèmes?
Oui, on le constate vraiment. Je pense qu'au niveau de la prise de conscience, c'est quelque chose qui est de plus en plus vrai. C'est-à-dire qu'à tous les niveaux de la société, que ce soit le citoyen ou l'acteur économique, hein, on a beaucoup d'entreprises qui s'engagent sur cette voie pour pouvoir transformer leur processus pour moins impacter la biodiversité. Et au niveau des politiques et des instances évidemment internationales, hein, comme on l'a vu, l'IBES, le GIEC s'intéresse aussi à la biodiversité. On voit qu'il y a des rétroactions sur le climat, et donc il est important de prendre en compte les deux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Mais après, en fait, il faut passer du constat à l'action, et c'est là que c'est plus compliqué, parce que bien souvent, l'action, en fait, elle est territoriale, elle est très localisée, elle dépend de beaucoup de phénomènes, de beaucoup d'organisations, y compris des organisations sociales. Et il faut faire avec ces organisations sociales et pas contre elles si on veut que les actions soient efficaces.
Mais ces zoonoses, hein, par exemple, qui représentent quand même 70% des maladies infectieuses émergentes, hein, classées zoonotiques, donc on a le sentiment que ça a été une découverte quand même.
Alors, ça a été une découverte pour le grand public, mais en réalité, les chercheurs l'annonçaient déjà. Hein. On avait, notamment sur le coronavirus, on a une publication qui date de 2007, hein, des chercheurs qui s'étaient intéressés à la première épidémie de coronavirus qui a eu lieu en Asie, qui a fait beaucoup moins de morts parce que le virus était moins transmissible. Et donc, déjà en 2007, cette publication disait, attention, ce virus-là a de grands potentiels pour faire une pandémie, et donc il faudrait qu'on s'y prépare. Donc, depuis 2007, évidemment, on ne s'y est pas vraiment préparé. On a continué à transformer les paysages et à utiliser les animaux sauvages, notamment les animaux vivants, dans ces marchés d'animaux sauvages où on a un contact, une proximité, on va dire, entre l'homme et des animaux porteurs de virus ou de bactéries. Et donc, ces émergences étaient annoncées. Les chercheurs l'annonçaient depuis longtemps.
Hubert Reeves, cette situation inédite, hein, bien que prévue par des chercheurs, des scientifiques, comment est-ce que vous la vivez, vous, au jour le jour?
Moi, je dirais, il y a toujours des éléments positifs derrière les éléments négatifs. Et pour moi, je suis frappé par le fait que cette crise écologique aujourd'hui a énormément d'effets positifs, justement d'éveil par rapport à cette situation dont vous dites qu'elle était connue auparavant, mais personne s'en occupait. Et aujourd'hui, on s'en occupe, et donc c'est un espoir d'amélioration du rapport des êtres humains avec les animaux, c'est-à-dire cet élargissement de ce qu'on appelle l'humanisme. Dans le passé, l'humanisme, c'était les humains et les animaux étaient au service des humains. Et ça, c'est écrit dans la Bible, et c'est écrit dans Descartes. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'est que ça, c'est pas la bonne solution, c'est même la très mauvaise solution. Si nous n'arrivons pas à vivre, à nous intégrer dans notre écosystème, nous périrons. Je prends souvent l'exemple de la tortue. La tortue, elle existe depuis 200 millions d'années. Et jusqu'ici, elle a réussi à survivre à toutes les crises écologiques, paléontologiques, tout. Sauf nous, nous sommes le seul danger. Nous, nous avons à peine 3 millions d'années. Ça dépend comment on date l'humanité, c'est un peu flou. Mais on admet environ 3 millions d'années. Et nous sommes déjà dans le collimateur de la sixième extinction. Et ça, je pense qu'il faut prendre des leçons. Quelles sont les recettes des animaux qui ont duré longtemps, et si on le demande aux tortues ou aux méduses ou à je ne sais quel animal qui a résisté pendant toute cette période, ils vous répondront la même chose. Il faut vivre en harmonie avec la nature. Et si vous n'apprenez pas à vivre en harmonie avec la nature, vous périrez. Vous n'êtes pas la première ni la dernière espèce, mais c'est le sort commun. La nature ne fait pas de cadeaux. Si on n'apprend pas à vivre en harmonie avec la nature, on périt. C'est pas un grand drame. Pour nous, c'est un grand drame, bien sûr. Mais sur le plan de l'histoire de la vie sur la Terre, ça n'est jamais qu'une espèce de plus qui disparaît. En fait, c'est beaucoup plus grave parce que je pense que l'humanité, c'est plus que ça. L'humanité a apporté des choses qu'aucune autre espèce n'a apporté. Et j'aime en citer trois. L'art, la culture, Mozart, Beethoven, aucune espèce animale n'a apporté des choses semblables. La science, Einstein, la connaissance de l'univers, de son histoire, etc. Et surtout, la plus importante pour moi, c'est la compassion. Parce que dans un nid, s'il y a deux petits oiseaux qui sont en santé et deux qui sont malades, les oiseaux parents vont s'occuper des oiseaux qui sont en santé et vont laisser mourir les oiseaux malades. Et c'est logique, puisque les oiseaux en santé ont vraisemblablement des gènes en meilleure santé, et donc logiquement, ils devraient s'occuper des oiseaux en santé. Mais dans l'humanité, c'est pas ça. Si vous avez dans une famille un enfant malade et un enfant en santé, les parents vont s'occuper, généralement, plus de l'enfant malade que de l'enfant en santé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les humains réagissent? Il n'y a pas que les humains, d'ailleurs, il y a quelques animaux qui, comme les singes, les baleines, qui ont développé
de l'empathie aussi, cette compassion.
L'empathie, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement qu'il y a eu dans l'évolution cette empathie qui fait que les humains ont développé Amnesty International, ils ont développé la Croix-Rouge, ils ont ce qu'aucune autre espèce animale n'a développé. Donc, je pense qu'il faut profiter du fait que nous avons cette possibilité et développer ces sentiments d'empathie et surtout s'occuper de ceux qui sont malades.
Mais alors justement, Hubert Reeves, face à ce confinement quand même que l'homme a vécu, donc cette sixième extinction de masse, elle est renseignée et on alerte depuis déjà des années, mais l'homme a dû se retirer de ce monde-là. Vous-même, vous dites, c'est vrai que l'homme a cette force de la culture, l'art, la compassion, mais la nature s'est rappelée à lui et il a dû s'extraire. Est-ce que ça n'a pas été particulièrement violent, peut-être, à observer pour vous?
Non. Je pense qu'il faut se rappeler que nous ne sommes pas que des spectateurs dans cette évolution de la vie. Nous sommes aussi des acteurs. C'est-à-dire, nous sommes des prédateurs et des proies. Et il faut voir la vie telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est, il faut manger. Il faut se battre pour exister. Ça, c'est une réalité qui est fondamentale dans l'évolution de la vie, dans l'apparition d'animaux de plus en plus efficaces, c'est la structure du monde. Étant donné que nous ne sommes pas que des spectateurs qui regardent le monde à distance en disant quel malheur de s'attaquer à ces pauvres petits coronavirus. Quelqu'un qui dirait ça, on lui dirait, vous n'êtes pas très objectif. Parce que vous n'êtes pas qu'un spectateur, vous êtes aussi acteur, vous êtes aussi une proie, vous êtes aussi dans l'évolution de la vie dans laquelle il faut considérer que l'homme n'est pas qu'un scientifique qui rédige des bouquins, mais il est aussi impliqué. Il peut être mangé. Il doit se défendre s'il veut exister, continuer à exister. Si on considère cet aspect que nous ne sommes pas des simples spectateurs, mais nous sommes des spectateurs et des acteurs, il est normal que nous n'invitions pas les coronavirus dans nos maisons, mais qu'au contraire, nous les combattions, parce qu'à l'échelle de la nature, ce sont nos ennemis.
Hélène Soubelé, une réaction peut-être à cette façon de voir effectivement le monde, la vie et la place de l'homme. Vous, vous êtes au cœur donc de cette fondation pour la recherche sur la biodiversité. La biodiversité, on peut déjà rappeler hein, ce que ça signifie, comment on la définit, parce que on parle de nature, de biodiversité, mais c'est quand même pas la même chose.
Oui, nous, on s'occupe de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des êtres vivants et de toutes les interrelations qu'ils construisent entre eux. Et je pense que c'est une dimension quand même qui est intéressante, c'est cette dimension en fait de coopération des êtres vivants entre eux. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des animaux. Je pense qu'on a un tropisme particulier pour les animaux par rapport aux plantes. Mais quand on regarde quand même comment s'est construit le monde végétal, on se rend compte maintenant, avec des recherches assez récentes, qu'en fait, ce monde-là s'est construit en coopération, y compris avec d'autres mondes qu'eux, d'autres groupes, comme les champignons, par exemple, où il y a des réseaux très, très grands et qui permettent, en fait, au monde végétal de communiquer entre eux. Alors, un arbre va pouvoir communiquer avec d'autres espèces végétales grâce aux champignons, grâce aux mycorhizes, grâce à ces symbiose.
Et être également en empathie d'ailleurs pour certains ou pour les petits.
Être en empathie parfois, alors ça c'est vrai que la science est de la science très récente, hein, donc on n'a pas toutes les réponses. Il faut tout de même qu'on continue à travailler pour mieux comprendre ces phénomènes-là, mais je pense que le phénomène de coopération est finalement peut-être plus important dans l'évolution et dans l'adaptation des êtres vivants, animaux et végétaux, champignons, bactéries, virus, que le phénomène de compétition, et y compris les pathogènes d'ailleurs, puisqu'on se rend compte que la plupart d'entre eux, ils ont coévolué avec nous, et lorsqu'ils coévoluent avec un être vivant, en fait, ils s'atténuent, c'est-à-dire qu'ils atténuent leur virulence, et c'est le cas des virus. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie d'explication de la pathogénicité d'un certain nombre d'organismes, c'est qu'en fait, ils n'ont pas coévolué. Les premières rencontres sont assez violentes. Et là, effectivement, il y a un combat. Mais ensuite, on finit par s'adapter à ce virus, à cette bactérie, à ce champignon, et ils sont moins pathogènes, moins mortels en fait pour nous.
Mais là, ce que vous expliquez aussi, c'est que si on tue ou si on dérange un autre sauvage, hein, et l'homme quand même exerce cette pression sur les écosystèmes aujourd'hui et depuis déjà des décennies, les pathogènes vont ailleurs, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle.
Non, c'est certain. Quand on tue un hôte hébergeant un certain nombre de virus ou de bactéries...
Ou qu'on le dérange, voilà.
On le dérange, voilà, tout à fait. On rentre en contact avec lui, déjà, en premier lieu. Et ce qui fait le risque infectieux, c'est d'une part le danger. Il faut qu'il y ait une présence de danger, donc présence d'un virus. Mais il faut aussi qu'il y ait un contact, c'est-à-dire une exposition de l'individu sensible, c'est-à-dire par exemple moi, avec le virus qui est potentiellement pathogène pour moi. Et c'est ce qui s'est probablement passé dans l'épidémie là de coronavirus. Et ensuite, il y a un troisième facteur sur lequel on peut agir, je pense. C'est la vulnérabilité de l'individu. Et on en a beaucoup parlé, par exemple, pour les personnes qui étaient plus sensibles, donc les personnes âgées, les personnes obèses, les personnes qui sont déjà immunodéprimées, et également dans les pays en développement, les personnes qui sont plus fragiles parce que pauvres, en mauvaise santé, malnutries, et dont le système sanitaire n'est pas capable de prendre en charge. Et ça, c'est vraiment aussi important. Donc le risque infectieux, en fait, il est plus complexe que ce qu'on veut bien dire. C'est-à-dire, c'est pas uniquement parce qu'il y a des virus et des bactéries chez les chauves-souris que tous les hommes sont à risque. En fait, ils sont à risque s'ils vont les déranger, s'ils font des intrusions dans ces écosystèmes, notamment via la déforestation ou via des systèmes agricoles qui sont un petit peu trop agressifs, on va dire, pour les milieux naturels. Et c'est ça, en fait, qu'il faut combattre. Et c'est là où je vous rejoins, Hubert Yves, c'est que effectivement, on a des solutions. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être avoir un rapport avec la nature qui soit pas la compétition qu'on a connue pour l'agriculture depuis la fin de la guerre, la Deuxième Guerre, mais une relation plus apaisée et de collaboration avec les systèmes naturels pour utiliser aussi les fonctions de ces écosystèmes qui permettent la productivité et la production de biomasse. Hein, parce que c'est vrai qu'on a besoin de manger. Et ce qu'on mange, c'est bien la biodiversité. C'est pour ça qu'il faut la protéger.
Et donc de respect aussi des territoires, on va le comprendre avec vous. Avant de découvrir aussi quelles sont ces formes de vie hein, qui vous fascinent, et l'un et l'autre, et puis de quelle façon est-ce qu'on peut en tirer nous-mêmes, justement, du bénéfice, je vous propose d'écouter ce reportage diffusé sur France 3 Corse le 13 mai 2018. Reportage en forêt avec Audrey Dussutour, spécialiste du blob. Elle est spécialiste au CNRS de Toulouse.
Ici, c'est vraiment un milieu où on va trouver un blob parce qu'il va se nourrir, lui, de bactéries et de petits champignons. Donc c'est dans les milieux humides, après une forte pluie, et surtout quand il fait une température assez chaude. Le blob n'aime pas. En Corse, il y en a. Il y a au moins une centaine d'espèces largement en Corse. Alors, ils ne sont pas tous jaunes. Vous pouvez en trouver des roses, des noirs, des gris. Il y a vraiment un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, même si le jaune est le plus fréquent.
Le blob passionne les scientifiques car même son cerveau et son système nerveux, il est capable de trouver de la nourriture dans un labyrinthe, de changer d'alimentation et même de se régénérer.
Le blob, c'est une cellule géante qu'on peut couper en morceaux. Si vous coupez en 10 morceaux, vous avez 10 blobs. Et ces blobs, vous pouvez les faire sécher. Donc c'est une forme de dormance. Il peut rester ainsi pendant 2 ans. Et quand vous le réveillez, le blob est tout jeune à nouveau. Et vous pouvez faire ça ad vitam aeternam. Donc en laboratoire, avec des conditions de température et de nourriture parfaites, il est en effet immortel. Ah, ça respire ? Ah oui, ça respire de l'oxygène comme nous.
Cet organisme intéresse aussi bien les néophytes que le milieu médical, car le blob a des propriétés antifongiques et antibactéricides. Il pourrait aussi faire avancer la recherche sur certaines pathologies.
Pour faire un parallèle avec les tumeurs, il y a ce côté, cette croissance anarchique, exponentielle, comme un cancer. Et donc on peut en effet étudier le blob pour étudier le cancer.
France Culture, de cause à effet. Le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
Voilà un exemple de cette nature riche d'innovation, le blob. J'avoue que je ne connaissais pas avant d'avoir regardé ce reportage. Hélène Soubelet, j'ai senti que vous étiez réactive sur ce terrain-là. En tout cas, ça nous permet de regarder un petit peu du côté de ce monde du vivant. Par exemple, les fougères, première plante à avoir pris place sur Terre, les conifères, les plantes à fleurs. Il y a de belles astuces dans la nature et puis potentiellement des formes de vie dont nous devrions peut-être aussi nous inspirer pour protéger l'environnement.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, sur lesquelles on essaye de travailler et sur lesquelles il y a de nombreuses recherches qui sont faites. C'est vrai que parfois, les solutions qui ont déjà été mises en place dans la nature pour contrer les déboires qui peuvent arriver aux êtres vivants sont plus efficaces que celles qu'on peut, nous, inventer en tant qu'êtres humains. Et c'est ce qui s'appelle le biomimétisme ou la bio-inspiration. Et qui permet, par la compréhension de ces systèmes vivants, par la compréhension des coopérations ou des compétitions entre eux, d'innover et de créer des choses extraordinaires. Et c'est vrai que la biodiversité nous apporte énormément de surprises en permanence, et comme on connaît très peu finalement du monde vivant, on a un potentiel de découverte qui est très important.
Hubert Reeves.
Je crois que ça nous fait découvrir une chose importante qu'on peut appeler le pilotage de la biodiversité et de l'écologie. C'est-à-dire que maintenant qu'on s'y intéresse, alors qu'au départ c'est bien de s'occuper de la nature, etc., on s'aperçoit que ça pose souvent des problèmes qui sont des problèmes où les solutions ne sont pas simples, où il n'est pas facile de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire. Justement, se développe ce qu'on appelle ce pilotage. Comment faire quand on est en train de développer des technologies? Quelles sont les questions qui sont des questions difficiles et choisir des réponses. Il y en a une que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle des plantes invasives. On disait souvent, les plantes invasives, c'est mal. Il faut se débarrasser des plantes invasives. Eh bien, on s'aperçoit quand on est concret que c'est pas si simple, que les plantes invasives, ce sont des plantes qui sont très résistantes. Et que si on se débarrasse des plantes invasives et qu'on garde les plantes qui sont moins résistantes, c'est peut-être pas la meilleure solution.
Et d'ailleurs, je sais que vous n'aimez pas le mot les mauvaises herbes, vous préférez les plantes non invitées, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Et dites-nous pourquoi est-ce qu'il y a cette image comme ça qui vous a fasciné visiblement, parce que vous avez souhaité commencer par elle et la partager au tout début de votre livre. C'est cette photo de deux gnous qui se battent à la vie, à la mort pour conquérir une femelle et donc assurer la reproduction de l'espèce. Qu'est-ce qu'elle représente cette photo pour vous?
Elle représente une autre façon de regarder la réalité et de regarder en particulier le problème de l'origine de la vie. Le problème de l'origine de la vie, maintenant, on essaie de découvrir quelles sont les petites réactions qui ont débuté, et puis évidemment, on se perd. Je pense que l'autre façon de regarder la vie, c'est sa puissance. Et cette photo, pour moi, suggère, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « La fureur de vivre ». La vie, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Je ne suis pas inquiet de la disparition de la vie. Je suis inquiet de la disparition possible des êtres humains parce que nous sommes une espèce. Mais cette vie est d'une force fantastique. Elle existe depuis plus de 3 milliards d'années. Elle a vécu, elle a vaincu tous les problèmes qui se sont présentés à elle, elle a réussi à se maintenir dans les conditions. Et c'est une façon de regarder la vie qui n'est pas de dire quand est-ce qu'elle est apparue, mais de dire, pour moi, la vie, elle fait partie de la réalité. Et elle se développe dans des conditions. Je sais que c'est une opinion qui n'est pas adoptée par tout le monde, mais j'ai droit à mes opinions. Pour moi, c'est un petit peu l'histoire de la vie. Elle commence au tout début de l'univers, au Big Bang. Il est évident, pour moi, que tout début, dans la physique, dans les lois de la physique, il y a la possibilité de la vie. Jacques Monod disait « La matière n'est pas grosse de la vie n'est pas grosse de l'homme ». Mon opinion, c'est que la matière est grosse de la vie. Et je dirais, la preuve pour moi, c'est que la vie est arrivée. Alors, pourquoi il n'y en a pas plus? Je dirais, c'est parce qu'elle demande des conditions très spéciales. Bon, je prétends pas avoir raison. Je dis, c'est un point de vue que j'aime défendre. C'est-à-dire commencer son analyse de ce qu'est la vie par un étonnement. Non pas par des formules, non pas par sortir des solutions qui sont, c'est le grand architecte, tout ça, c'est des solutions à notre échelle. Ce qu'est la vie vraiment, c'est d'abord un objet d'étonnement quand on voit jusqu'à quel point la vie est puissante partout, jusqu'au fond des océans, jusqu'au sommet des montagnes. C'est vraiment un phénomène fantastique. Notre cœur bat, nous la sentons battre en nous tout le temps. Et c'est un petit peu pour développer ce point de vue de regarder la vie d'abord, non pas par en faire des théories pour dire qu'il l'a fabriquée, mais en s'en étonner.
Et c'est cet étonnement-là qui vous donne l'espoir qu'il y aura une préservation de cette vie, parce que la vie est apparue, la vie s'est multipliée, mais la vie est aussi en danger. Et on a même du mal à la renseigner, c'est-à-dire qu'on connaît un certain nombre de millions d'espèces, mais on sait qu'on passe à côté de millions d'autres, peut-être parce qu'on n'a même pas le temps de les repérer avant qu'elles ne disparaissent elles-mêmes.
Exactement. Elle est vraiment puissante, elle s'est installée partout. Je ne dis pas que l'humanité pourrait disparaître, ça c'est évident. Je ne crois pas, encore que là aussi je m'avance, que la vie va durer, enfin nous les astronomes nous savons jusqu'où vraisemblablement elle peut durer, 5 milliards d'années, c'est-à-dire quand le soleil mourant aura vaporisé la Terre. C'est ce que nous voyons comme fin possible de la vie.
Hélène Soubelet, et la vie peut s'arrêter avant peut-être, hein, si l'homme ne réagit pas?
Non, la vie, moi je pense effectivement, hein, la vie sur Terre, non, elle s'arrêtera pas avant. Par contre, ce que l'homme fait actuellement, c'est qu'il entraîne des déséquilibres des écosystèmes tels que nous les connaissons. Et ces écosystèmes sont en train de se réadapter. Et certaines espèces qui ne pourront pas s'adapter dans les temps que l'homme lui donne, parce que les pressions sont vraiment très très importantes, vont disparaître. Et c'est ça en fait sur lequel on alerte, c'est le fait que notre rapport au monde pour l'instant est un rapport un peu conflictuel.
Ces pressions concrètement, c'est quoi? L'ultra-urbanisation, l'agriculture intensive, le fait que l'homme exploite de plus en plus les ressources de la planète et que la planète ne peut pas répondre à tous ses besoins?
Oui voilà, c'est ça. Elles sont au nombre de 5 pressions directes hein, qu'ont bien décrit les scientifiques. Donc la première pression directe, c'est effectivement la transformation des écosystèmes, le changement d'usage des terres, c'est-à-dire une terre qui était forêt qui devient terre agricole ou une ville. La deuxième, c'est le prélèvement de biomasse qui est très très important. On pêche des poissons, on chasse certaines espèces, on éradique d'ailleurs certaines espèces. Il y a des grandes disparitions emblématiques, le dodo, le grand pingouin, la rétine de Steller qui est un mammifère marin. Ont disparu parce qu'on les a chassés jusqu'au dernier, en fait. On est allé jusqu'au dernier leur mettre une balle dans la tête. Donc, en fait, ou les pêcher. Donc, en fait, on est quand même dans un système où on prélève énormément de biomasse. Et ça, pour moi, c'est un problème quand même important de notre rapport au vivant. Et c'est pas toujours pour s'en nourrir et pour notre survie. C'est parfois uniquement pour le loisir, le plaisir, etc. Et c'est là où il y a un problème éthique. L'autre pression importante, c'est le changement climatique, dont on s'est saisi. En tant qu'humanité, on s'est saisi du changement climatique, c'est vrai, mais il faudrait saisir aussi les autres pressions. La quatrième pression, c'est la pollution. On est en train de polluer l'intégralité de tous les écosystèmes, à tel point qu'on retrouve des polluants un peu partout dans le monde, des polluants qui sont produits par exemple dans le monde occidental. On va les retrouver disséminés partout. Il n'y a qu'à regarder le plastique, comment il finit sa vie dans les océans sous forme de microparticules, tout en ayant fait des dommages très importants avant sous forme de plastique.
Et on retrouve tous ces polluants, y compris dans la banquise.
Exactement. Et la cinquième pression directe, c'est les espèces invasives, justement, qu'on participe à disséminer. Et donc, là aussi, il y a une attention importante qui peut être faite.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'en va en l'air, quitte l'atmosphère pour voir l'espace. J'troque son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Grosse boîte que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue sous ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me file du bonheur, je me ferai peut-être agriculteur. Rouge dans les grandes villes, j'ai préféré me mettre au vert. J'ai plus de bonheur à vivre en paix que m'admirer au fond d'un verre. Je boirai l'eau saine de mon ruisseau plutôt que l'eau sale du fond de la Seine, chargée en plomb et en histoire que la surface ne laisse plus voir. Je ferai des bandes pour m'éloigner, pour me retrouver face au miroir. Juste une seconde de vérité pour que mon passé coule sous les ponts. Je ferai des bandes pour m'éclipser, pour me retrouver face à que dalle. Juste une seconde de vérité pour contempler ce qu'on est tous. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin.
C'était Ridan, l'agriculteur. Et c'est votre choix, Hélène Soubelé. Dites-nous peut-être pourquoi est-ce que vous avez décidé de nous faire écouter cette chanson en particulier.
Bon, déjà, je la trouve très poétique. Je trouve que les paroles sont très bien. Puis ça résonne un petit peu en moi parce que c'est vrai que je suis quand même intimement persuadée que c'est notre mode de société récente, hein, de ces dernières dizaines d'années, on va dire, qui exerce ses pressions en plus de manière un petit peu aveugle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité d'une seule personne ou d'une seule catégorie socio-professionnelle. Et donc, du coup, il n'y a pas non plus de prise en compte ou d'application d'un principe destructeur-payeur. C'est pas possible de faire ça. Et donc, moi, je suis quand même intimement persuadée qu'il faut qu'on réfléchisse notre rapport à la nature et que le fait de sortir un petit peu de cette société de consommation à outrance où finalement on accumule chez soi des choses dont on n'a pas vraiment besoin, qui exercent par ailleurs des pressions sur la biodiversité, hein, au moment de leur production, au moment de leur recyclage et au moment de leur utilisation, eh bien, on pourrait quand même essayer de réduire un petit peu cette consommation et arriver à un usage un peu plus durable de la biodiversité.
Et ça passe par la chanson également.
Ça passe par la chanson, par la poésie.
Pour porter ce message-là,
voilà,
en tout cas.
Exactement.
Et c'est la suite de notre émission avec vous, hein, De cause à effet sur France Culture, émission, vous l'aurez compris, consacrée aujourd'hui à la biodiversité et à la façon d'habiter le monde en harmonie avec le vivant. Et nous sommes toujours avec vous, Hubert Reeves, astrophysicien, et je rappelle le titre de votre dernier livre, La fureur de vivre, paru au Seuil. Et puis, Hélène Soubelé, on peut donc préciser et rappeler que vous êtes directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité et auteur notamment du livre Sauvons la biodiversité et Je sauve les espèces menacées, des livres édité chez Rustica. Et je rappelle également que cette émission est en partenariat avec la coalition Hashtag Sauver le Présent qui, une fois par mois, réunit France Culture, Le Parisien et la revue Ouzbek Erika. Dossier biodiversité complet à découvrir sur notre site. Mais tout de suite, direction la rédaction des pages Planète du journal Le Monde pour découvrir le coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Bonsoir Stéphane Foucard.
Bonsoir.
Vous êtes notre œil du monde planète et vous revenez sur l'un de vos articles parus récemment sur l'affaiblissement de la réglementation européenne en matière de pesticides et de protection des abeilles.
Oui, c'est une question importante. Ces dernières semaines, en France, on a beaucoup discuté du retour de ces fameux néonicotinoïdes, hein, ces insecticides qu'on a appelés les insecticides tueurs d'abeilles, du retour de ces insecticides interdits sur la betterave. Mais pendant qu'on discute de ça en France, il se passe des choses beaucoup plus importantes à Bruxelles. Et en l'occurrence, il s'agit de redéfinir les tests réglementaires qui vont permettre la mise sur le marché des futurs pesticides qui vont être développés par les industriels de l'agrochimie. Et de développer ces tests de manière à ce que ces pesticides soient le moins possible nuisibles aux abeilles et aux pollinisateurs. Donc c'est quelque chose de très important qui finalement engage la réglementation sur les 10 ou 15 prochaines années et qui va déterminer tout ce qui va pouvoir entrer ou ne pas entrer sur le marché.
Mais alors concrètement, Stéphane Foucard, est-ce qu'on peut être confiant par rapport à ces discussions en cours où les ONG commencent peut-être à s'alarmer?
Alors les ONG sont tout à fait alarmées et c'est dommage d'ailleurs parce que les choses avaient plutôt bien commencé. En 2012, puisque c'est une histoire qui remonte maintenant à presque une décennie, en 2012, l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui avait commencé à passer en revue les tests réglementaires qui étaient alors en vigueur et qui s'est rendu compte, au cours de ce passage en revue, que ces tests étaient à peu près aveugles à l'essentiel des effets des nouveaux pesticides qui avaient été introduits sur le marché dans les années 90, à savoir ces fameux néonicotinoïdes. Et l'EFSA a entrepris de proposer aux États membres ce qu'on appelle un document guide, c'est-à-dire une refonte complète de ces tests. Alors, quelques exemples, ces nouveaux tests, ils devaient prendre en compte, par exemple, le risque d'une exposition chronique pour les abeilles à ces pesticides, alors que jusqu'ici, seule l'exposition aiguë était prise en compte. Ils étaient aussi susceptibles de tenir compte des effets de ces pesticides sur, par exemple, les larves des colonies, et pas uniquement les abeilles adultes. Ils étaient susceptibles aussi, par exemple, d'évaluer les risques d'une exposition à ces pesticides en concomitance avec des pathogènes naturels, etc., etc. Et ce qui s'est passé, c'est que ces nouveaux cahiers des charges n'ont jamais recueilli l'approbation des États membres. La proposition a été mise à près d'une trentaine de reprises sur la table de négociation du comité d'experts des États membres et jamais aucune majorité ne s'est dégagée pour les adopter.
Et est-ce qu'on sait pourquoi?
Ce qui s'est passé, c'est donc que la Commission, tout simplement parce que certains États ne veulent pas entraver l'arrivée sur le marché de nouveaux pesticides développés par les géants du secteur et qu'on fait passer en quelque sorte le bénéfice économique à court terme, la production de richesses à court terme, on fait passer ça devant la préservation de la biodiversité. Alors ce qui s'est passé, c'est que la Commission européenne, en désespoir de cause, a demandé à l'EFSA de revoir sa copie et de reproposer des tests, des cahiers des charges de tests réglementaires. Et c'est cette révision qui est en cours qui conduit à un affaiblissement du niveau de protection des abeilles et des pollinisateurs.
Et donc visiblement, ces études et ce nouveau cahier des charges poseraient aussi la question des pollinisateurs sauvages, puisque je crois que là, il y a un véritable flou pour pouvoir mesurer les effets des intrants chimiques sur cette population-là.
Oui, c'est une des grandes questions qui est aujourd'hui posée par la révision de ces tests. Le premier cahier des charges, qui n'a donc jamais été adopté, prévoyait l'évaluation du risque des nouveaux pesticides sur, par exemple, les bourdons ou des abeilles solitaires. Là, on est dans un grand flou. On ne sait pas exactement comment les tests qui sont en train d'être négociés au niveau européen vont tenir compte de la préservation de ces pollinisateurs sauvages. C'est très important. Et pourquoi c'est très important? Simplement parce que les pollinisateurs sauvages n'ont souvent pas la capacité qu'ont les abeilles domestiques à résister à certains stress. Il n'y a pas de grande colonie qui est capable de se réorganiser en fonction d'un stress, en particulier d'un stress chimique. Et donc, on parle beaucoup des abeilles parce que les abeilles, c'est sympathique, ça produit du miel, il y a des apiculteurs qui les défendent. Mais quand les abeilles commencent à trinquer, en général, c'est que le reste des pollinisateurs sauvages, en fait, est en bien pire posture. Et donc, c'est un enjeu de biodiversité qui est absolument majeur et qui est pour l'instant pas complètement tranché par l'état d'avancement des discussions sur ces nouveaux tests réglementaires.
Donc, à suivre, on imagine, Stéphane Foucart, est-ce qu'il y a un agenda spécifique ?
Théoriquement, tout doit être fini en juin 2021. C'est la demande qui a été faite de la Commission à l'EFSA, qui propose un certain nombre d'options qui sont ensuite débattues, arbitrées et adoptées ou pas adoptées par les États membres. Donc, normalement, au printemps prochain, on sera fixé.
Alors, je me tourne vers nos invités. Une petite réaction, peut-être, Hubert Reeves. On connaît votre attachement aux oiseaux, aux insectes, qui sont, comme vous le dites, les médiateurs de la reproduction du vivant. Ils transportent le pollen, etc. Et bien sûr, remplissent de nombreux services écosystémiques. Comment est-ce que vous réagissez à ces discussions, à ces possibles assouplissements? On a vu aussi, durant l'été, la demande de certains producteurs de betteraves en France, demande d'obtenir une dérogation pour pouvoir recourir à nouveau aux néonicotinoïdes. Comment vous réagissez?
Bon, je dirais le mouvement qui s'appelle Humanité et Biodiversité, dont je fais partie, a un double objectif. Un objectif, c'est de sauver les animaux. Et le deuxième objectif, c'est de s'occuper des humains pour que les humains restent quand même à avoir une vie humaine. Alors, j'ai cru comprendre que ces débats avait à voir avec le fait que d'exclure complètement tous les substances mettait les paysans, les fermiers dans des situations extrêmement difficiles. On dit qu'il y a beaucoup de suicides et tout cela. Je comprends ce point de vue. C'est notre objectif. Nous appelons humanité et biodiversité. Donc, je comprends ce que c'est ce débat. Je ne connais pas assez bien ces questions pour pouvoir en discuter comme cela.
D'accord. Hélène Soubelé, vous connaissez peut-être un petit peu mieux ces éléments-là, et notamment le rôle d'une agence comme l'EFSA à l'échelle européenne. En fait, aujourd'hui, se pose certainement la question de savoir si elle a les outils ou l'indépendance nécessaire pour décider en faveur de la protection de la biodiversité.
Bah effectivement, ce serait souhaitable. Je pense que en fait, on est là face à un problème cornélien, parce que c'est vrai qu'il y a il y a tout de même un problème d'adaptation de l'agriculture telle qu'elle est actuellement mise en œuvre pour la majorité, et une trajectoire un peu plus agroécologique. Néanmoins, je pense que la question des pesticides, elle est emblématique d'un certain monde agricole qui ne veut pas changer et qui ne veut pas s'engager vers une transformation. On n'a jamais demandé au monde agricole de changer du jour au lendemain. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques interdictions de pesticides ou de molécules actives qui sont établies du jour au lendemain. Et ça peut poser, dans des cas particuliers, des problèmes. Mais néanmoins, la sortie des pesticides, pour moi, c'est vraiment un enjeu. D'autant plus qu'un certain nombre de projections et de scénarios, notamment ceux qui ont été réalisés par l'IDRI, sur une Europe agroécologique montre que c'est possible. Donc en fait, c'est possible de transformer l'intégralité de l'agriculture européenne sans perdre d'ailleurs vraiment trop de notre balance commerciale et des exportations qui sont liées actuellement beaucoup à l'agriculture européenne, et c'est pour ça qu'on la protège, en permettant de nourrir l'ensemble de la population européenne tout en sortant complètement des pesticides. Donc c'est possible.
Le problème, c'est le levier, c'est quoi, le rôle du politique ou c'est autre chose?
Oui, c'est le rôle du politique, de choisir d'agir pour l'intérêt commun plutôt que pour des intérêts particuliers, et c'est également pouvoir avoir ce courage de s'opposer à certains lobbies qui actuellement ne veulent pas laisser la part du gâteau. Et je pense que dans le cas des pesticides, c'est clairement ce qui se passe. Il faut qu'on en sorte, et on mettra peut-être 10 ans, mais il faudrait qu'on commence déjà maintenant à en sortir.
Aider les agriculteurs à en sortir.
Bien entendu, aider les agriculteurs à en sortir, les aider à aller vers cette trajectoire agroécologique, mais là on s'intéresse aux agriculteurs, il faut aussi s'intéresser à toute la chaîne en fait, de l'amont vers l'aval, parce qu'on ne pourra pas uniquement faire changer les agriculteurs, et il faut aussi également faire changer le consommateur, donc discuter sur les régimes alimentaires notamment, avec des co-bénéfices en plus qui sont attendus d'un changement de régime alimentaire qui permettrait à la fois de diminuer la pression sur l'environnement et à la fois d'avoir des régimes alimentaires plus sains au niveau nutritionnel, qui suivent d'ailleurs les recommandations de l'OMS notamment, sur des régimes alimentaires par exemple moins carnés, voilà. Et tout ça c'est possible sans pesticides. Alors c'est pas possible du jour au lendemain, encore une fois je le répète, mon propos c'est pas de dire du jour au lendemain arrêtons les pesticides, mais c'est de se mettre sur cette trajectoire-là, de s'y mettre tous ensemble et de soutenir les agriculteurs pour qu'ils puissent sortir de cette dépendance qui leur coûte fort cher et qui est probablement aussi un petit peu fait partie des problèmes qu'on citait tout à l'heure sur les suicides des agriculteurs.
Le mal-être des agriculteurs, bien sûr.
Ils sont stigmatisés actuellement en grande partie à cause des pesticides. Donc il faut à un moment qu'ils réussissent à en sortir. Et ceux qui le font gagnent mieux leur vie et en sont beaucoup plus heureux. Donc aidons les autres.
Stéphane Foucard, quelque chose à rajouter ?
Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que effectivement c'est du bon sens. D'autant plus que la biodiversité, on a tendance à l'oublier, c'est aussi un allié pour l'agriculture. Et si on détruit cette biodiversité, si on détruit les pollinisateurs, si on détruit les organismes du sol, on va augmenter la dépendance de notre agriculture à tout un système technique, ce qui va accentuer encore l'aliénation en quelque sorte des agriculteurs à tout un tas d'acteurs économiques étrangers à l'agriculture elle-même. Donc voilà, donc je pense qu'il faut aussi penser à l'avenir et penser que sans la biodiversité, il n'y a pas d'agriculture.
Merci Stéphane Foucard, et je rappelle pour les auditeurs que toutes les informations sur votre article, sur celui-ci en l'occurrence, mais sur les autres aussi et sur ce sujet, sont à retrouver sur notre site et sur celui du Monde.fr. Merci à vous.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
On est en train tout simplement d'essayer de sauver notre planète. L'environnement, à mon avis, on peut pas faire que d'en parler. Il faut agir.
Et alors, qu'est-ce que vous faites?
Eh ben, avec mon fils Antoine et mes petits-enfants, on a décidé, sur la parcelle qui fait actuellement 32 hectares, de replanter 1000 arbres.
Christophe Piquet est éleveur de vaches à viande, des rouges des prés. Il passe en bio il y a 8 ans. Dès les beaux jours, les vaches seront au pré. C'est pour leur bien-être, pour lutter contre la chaleur, qu'il a choisi de planter plusieurs rangées d'arbres au milieu des prairies et des cultures.
Les arbres sont mis de façon à ce que ça fasse l'ombre le matin. L'après-midi, ça va faire une ombre qui va tourner. Donc évidemment, on ne va pas avoir l'effet tout de suite. Il faut qu'il y ait une certaine envergure au niveau des plants pour que ça fasse effet. L'effet, le bénéfice, il sera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans.
C'est du frêne.
Ah bon? À quoi tu le reconnais?
Bah parce qu'il est dur et il est vert à l'intérieur.
Les arbres vont apporter de la fraîcheur, réguler l'eau, fertiliser les sols, toute fonction que les agriculteurs avaient oubliée.
L'exploitation, elle est depuis mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père. On a tous participé à arracher un peu d'arbres, déforester, aligner les parcelles. Et puis on était vraiment à la disposition du machinisme, si vous voulez. C'est les moissonneuses qui nous disaient comment fallait faire.
On commence à se rendre compte par nous-mêmes qu'il est temps d'avoir un retour en arrière.
Et oui, c'était le témoignage d'un agriculteur mayennais qui, avant de prendre sa retraite et de passer le flambeau à son fils, a choisi de transformer son exploitation. Un reportage diffusé sur France 3 le 20 janvier 2019. Voilà une action qui montre, Hubert Rives, que l'homme peut et peut-être doit réparer ce qu'il a détruit pour régénérer les écosystèmes. Une réaction peut-être. Et puis dites-nous, quels sont les paysages qui vous reconnectent, vous, à la nature?
La chose importante, c'est de garder la terre habitable et agréable. C'est tout notre effort, toute notre activité doit être concentrée, c'est notre responsabilité d'être humain.
Et alors vous, les paysages qui vous reconnectent à la nature?
Les arbres. J'ai planté chez moi une forêt millénaire, c'est-à-dire pas des arbres de 1000 ans, mais des arbres qui peuvent vivre plus de 1000 ans. J'ai planté des séquoias qui peuvent vivre 3000 ans, des cèdres du Liban aussi, que je suis allé chercher là-bas. Les séquoias, on me les a envoyés. Ils ont maintenant 20 mètres de hauteur et je suis très fier de cette forêt. Et quand j'entends des oiseaux qui nichent dans ces arbres, ça me fait un bonheur au cœur.
Hélène Soubelé, il y a une jolie phrase mantra que vous nous avez proposée et les auditeurs pourront la retrouver sur le site de l'émission. C'est cette phrase attribuée à Sitting Bull, donc chef indien du Dakota du Sud. « Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors ils réaliseront que l'argent ne se mange pas.
» Oui, c'est une phrase qu'on avait citée à la FRB dans un petit fascicule qui s'appelle « Qu'est-ce que la biodiversité ? Une clé pour comprendre ». Parce que c'est essentiel, la biodiversité, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous maintient en vie. Et c'est ce qui fait que l'homme peut vivre la vie agréable. Enfin, je parle de l'homme occidental, parce que malheureusement, tous les hommes ne vivent pas une vie agréable. On peut le regretter d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est cette biodiversité, en fait, qui fait que la Terre est accueillante. C'est pas l'homme en lui-même. L'homme tout seul sur la Terre, sans les éléments de biodiversité, sans les plantes, sans les poissons, sans les animaux terrestres, sans les champignons, mais même sans les bactéries, ne vivrait pas, en fait.
Donc, une planète, une santé. C'est-à-dire que la santé de la Terre, c'est la santé aussi des espèces vivantes, c'est la santé des humains. Tout est irrémédiablement lié.
Tout est lié. Et donc, une fois qu'on a compris ça, c'est vrai qu'on a envie de protéger cet extérieur à nous, qui est la biodiversité, mais qui devrait en fait ne pas être un extérieur ou quelque chose qu'on doit gérer ou cantonner ou canaliser, mais quelque chose avec qui on vit et qui a le droit aussi de vivre sur cette planète autant que nous, voire plus dans certains cas. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de se rendre compte de ça. La biodiversité est essentielle et tous nos systèmes sociétaux sont finalement un petit peu artificiels par rapport à ça. Et donc il vaudrait mieux qu'on vive en harmonie avec la nature en imaginant une société qui est capable de vivre en harmonie avec la nature et qui est capable d'intégrer le plus grand nombre également, plutôt que la société actuelle qui pour moi présente d'énormes défauts et qui n'est absolument pas aboutie sur aucun des plans, ni économique, ni social, ni environnemental. Donc il faut qu'on avance vers quelque chose de meilleur à la fois socialement, environnementalement et économiquement.
Et par exemple, ne pas forcément décrier ou ostraciser certaines espèces plus que d'autres. On pense aux chauves-souris finalement, les pauvres j'ai envie de dire quelque part dans cette pandémie, car elles sont avec les primates, les carnivores, les rongeurs, elles font partie de ces groupes qui hébergent le plus de pathogènes zoonotiques. Et pourtant, elles ont tout à nous apprendre, parce qu'on pourrait s'inspirer justement de leur résistance aux pathogènes.
Oui, les chauves-souris, alors ce sont des animaux très spéciaux qui ont développé des capacités en fait à tolérer les pathogènes qu'on commence à découvrir avec émerveillement d'ailleurs. Donc effectivement, elles en hébergent beaucoup. Elles en hébergent beaucoup parce que leur physiologie est permissive et elles ont coévolué depuis très longtemps avec ces pathogènes-là. Donc je pense qu'effectivement, on peut s'inspirer des chauves-souris. Peut-être qu'elles nous donneront des réponses d'ailleurs aussi sur la façon dont on peut vivre avec un coronavirus, par exemple, ou favoriser l'adaptation de ces pathogènes à l'humain, trouver des vaccins ou des façons de s'en sortir pour soigner les plus faibles. Et donc, c'est très important de ne pas les ostraciser, déjà parce que voilà, la chauve-souris, c'est pas elle qui est responsable de la transmission de son virus à l'homme. C'est plutôt l'homme qui est allé la perturber dans ses habitats, détruire sa nourriture, et donc voir la capturer, voire la manger. Certains consomment des chauves-souris. Et c'est ce contact entre l'animal chauve-souris et l'homme qui a permis le passage du virus. Si on l'avait laissé tranquille, la chauve-souris, je pense que le virus ne serait pas passé à l'homme.
Hubert Reeves, face à la dégradation de l'environnement, on entend parler de l'intelligence artificielle qui pourrait tout solutionner. Alors j'ai envie de vous dire, pour le meilleur ou pour le pire ?
Ça dépendra des décisions. La technique, que ce soit la technique la plus élémentaire comme le feu, vous pouvez vous réchauffer et vous pouvez mettre le feu à la maison de votre voisin. Si vous faites des bombes atomiques, vous pouvez essayer d'utiliser l'énergie nucléaire pour vous chauffer, encore que je ne suis pas d'accord, mais n'importe. Les techniques ne sont pas morales ou immorales. Tout dépend de ce qu'on en fait et tout dépend de qui prend les décisions. Alors moi, je crois qu'effectivement, il y a encore beaucoup de progrès, que cette intelligence artificielle peut nous apporter beaucoup de choses. Pour moi, le plus important, c'est par rapport au handicap humain. C'est par rapport aux gens qui sont aveugles, qui n'entendent pas. Je crois que c'est là qu'est le plus grand espoir.
Mais par rapport à l'environnement, par rapport au réchauffement climatique, est-ce que la solution, elle doit passer à nouveau par la technologie et ce progrès ou passer par d'autres choses?
Elle peut passer. Moi, je n'ai rien contre la technologie. La technologie, encore une fois, elle n'est pas morale. Il faut savoir, il faut voir quels sont les effets. Essayer de prévoir à l'avance ce que va donner une technique. Ces grands projets que l'on fait aujourd'hui pour arrêter le réchauffement climatique, chaque fois qu'on essaie d'en mettre un peu en pratique, on s'aperçoit que les effets négatifs sont beaucoup plus importants que les effets positifs. Donc, pourvu qu'on fasse attention, pourquoi pas? La technique nous a apporté beaucoup, elle peut nous apporter beaucoup. Tout dépend, encore une fois, de ce qu'on en fait et qui prend la décision. Donc, je ne suis ni pour ni contre. De toute façon, ça viendra de toute façon. Et je pense qu'il faut essayer de juger à l'expérience. On a essayé, par exemple, de réussir à produire absorber plus de gaz carbonique en mettant des choses dans les océans. Après peu de temps, on s'est aperçu que ça présentait des formes de matières toxiques et insupportables. Donc, on ne peut que le faire avec la prudence qu'il faut et avec les intentions qu'il faut. En gros, il faut se servir de sa tête.
Face aux évolutions aujourd'hui, hein, planétaires, ces enjeux environnementaux, le réchauffement climatique qui met à mal aussi la biodiversité, enfin tout ce dont on a parlé durant cette émission, est-ce que vous avez le sentiment que c'est le monde politique aussi dont on parlait à l'instant qui a ce rôle à jouer? Comment vous regardez les grands rendez-vous, par exemple, sur la biodiversité? Il va y en avoir en 2021 et les grands rendez-vous avec les COP. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que la plupart d'entre eux ont eu des résultats positifs. Généralement insatisfaisant par rapport à ce qui était prévu, mais par exemple, 1992, Rio de Janeiro, on a dit ça n'a rien donné. C'est pas vrai. Ça a donné le fait que le mot écologie est devenu partout dans le monde. Vous voyez, c'est parfois des résultats imprévus. C'est des résultats de publicité. Ça fait connaître les risques et tout le monde s'éveille. Aujourd'hui, les gens sont éveillés à l'écologie. Je pense qu'avant 92, personne ne connaissait vraiment même le sens de ce mot. C'est ça l'intérêt de ces conférences-là. Ce qui s'est passé, c'est que depuis, les premiers exemples que je connais, c'est en Californie, avec les Sequoia Park, les gens qui ont fait les premiers parcs animaliers. Mais c'est un mouvement qu'on appelle le réveil vert, qui est le fait que auparavant, beaucoup de gens déploraient le comportement des humains par rapport à la nature, mais il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de législation. Les premières législations apparaissent autour de 1875, quand des gens comme John Muir, par exemple, qui est un des grands défenseurs, va à Washington pour obtenir des législations. Rachel Carson, en 1960, avec Silent Spring, va voir Kennedy pour dire il faut des législations. L'important, qui commence vers la fin du 19e siècle, c'est le fait qu'on décide de faire des associations et de prendre au sérieux les mouvements de la destruction de l'environnement. Ça se poursuit, ça va très vite, ça va de plus en plus vite, mais la détérioration également va de plus en plus vite, de sorte que si on devait définir la situation aujourd'hui, je dirais, il y a à la fois des choses qui s'améliorent et des choses qui se détériorent.
D'où le mot urgence.
D'où le mot urgence, exactement. Est-ce qu'on a encore le temps? Aujourd'hui, on peut détériorer à une telle vitesse et les facultés de restauration de la nature, qui sont bonnes en général, mais là, est-ce qu'elles ne rencontrent pas des phénomènes beaucoup trop rapides pour s'adapter? Donc ça, c'est tout le problème qu'il y a. Je dirais, il y a une amélioration et une détérioration qui se poursuivent en parallèle. Et ce que sera le résultat, personne ne le connaît.
Alors, votre petit-fils s'appelle Noé, hein, vous le confiez dans votre livre. Un bon présage, apparemment, pour vous, pour sauver la biodiversité, c'est ce que vous laissez entendre?
Noé, c'est celui qui a sauvé la biodiversité.
Donc, vous comptez sur ces mouvements de jeunes, peut-être?
Oui, beaucoup. Je crois que c'est une chose importante, les gens qui n'ont pas intérêt à ces choses-là, des gens qui n'ont pas intérêt financier, je veux dire. Il y a des associations dont on sent très bien que pourquoi les enfants ou les jeunes peuvent avoir des intentions plus pures, je dirais, moins intéressées. Et c'est pour ça que leur rôle est très important.
Hélène Soubelé, est-ce que justement la solution, c'est pas ça, c'est-à-dire ces jeunes, ces mouvements collégiens, lycéens, étudiants qu'on voit fleurir à travers le monde?
Oui, alors je dirais ils sont porteurs d'espoir pour l'avenir parce qu'on se rend compte quand même que cette jeune génération, elle est beaucoup plus alertée sur les problématiques de biodiversité et de climat, et donc ça c'est très bien. Mais néanmoins, c'est pas pour ça qu'il faut pas nous aussi qu'on fasse notre part. Parce que quand même, le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est pas du fait des jeunes hein, qu'il est dans cet état-là. Et il faut pas leur mettre cette pression sur les épaules en disant « bon bah maintenant on a tout détruit, allez-y, il vous reste à reconstruire ou il vous reste à changer vos modes de vie », alors que nous, on en a quand même bien profité.
Il faut accompagner ces mouvements, au contraire.
Oui, tout à fait, il faut accompagner ces mouvements et il faut participer soi-même à la baisse des pressions sur la biodiversité. Et c'est bien pour ça que moi j'appelle tout le monde, en fait, du citoyen jusqu'aux politiques, jusqu'aux instances internationales qui sont absolument importantes pour mettre tout le monde sur un pied d'égalité ou au moins que tout le monde soit conscient des engagements qu'ils doivent prendre pour avancer et qu'ensuite ceux-ci soient déclinés par tous les pans de la société.
Hubert Reeves, vous écrivez « Les dernières minutes avant la nuit sont souvent des instants de grande ambivalence ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Je veux dire que je veux remercier qui, je ne sais pas, de vivre une vie comme celle que je vis. J'ai beaucoup de chance dans ma vie. Mais en même temps, je pense à tous ceux qui n'ont pas ces chances. Et je me dis, pourquoi moi? Pourquoi pas tous? Et c'est pour ça que j'ai mis la chanson de Violetta Parra, justement, qui dit, je ne peux pas dire merci à qui, je peux dire merci à la vie.
Oui. Gracias à la vida.
Gracias à la vida.
Et oui, à découvrir aussi pour les auditeurs sur le site, puisque tous vos conseils, bien sûr, vos phrases mantras, vos conseils de livres, de gestes aussi au quotidien sont à découvrir sur le site. Je vous remercie tous les deux vivement. Hubert Reeves, je rappelle le titre de votre dernier livre, La fureur de vivre, paru au Seuil. Hélène Soubelé, Sauvons la biodiversité, écrit avec Jean-François Sylvain. Et puis l'autre livre, Je sauve les espèces menacées, c'est deux livres édités chez Rustica. Et j'en profite aussi pour vous conseiller la nouvelle exposition permanente intitulée Bio-inspirée, à découvrir à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Elle vous entraîne dans le biomimétisme et la richesse de ce monde du vivant, source d'inspiration. Et puis comme toujours, les informations, bibliographie, les liens sur le site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, ainsi que le dossier complet sur ce thème de la biodiversité. Dossier constitué avec nos partenaires hashtag Sauver le Présent, Le Parisien et Ouzbek Erika. Téléchargement, réécoute, à votre disposition. Mardi prochain, nous nous intéresserons à la mécanique médiatique qui mêle science, information et lobby sur le terrain de l'environnement. Et puis vous restez à l'écoute de France Culture, suite de vos programmes dans un instant, avec dans quelques minutes, le journal de la rédaction.